Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les titres de l'actualité de ce samedi 25 juin. Un coup terrible porté aux droits des femmes aux États-Unis. La Cour suprême révoque le droit à l'avortement et laisse les États choisir s'ils autorisent ou non l'IVG sur leur territoire. Le Missouri devient le premier État à l'interdire, suivi de près par le Dakota du Sud. L'Ukraine retire ses troupes de la ville de Severodonetsk, une étape cruciale pour les soldats russes qui veulent conquérir le Donbass. Fin des plaidoiries en France dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Les avocats de Salah Abdeslam, seul membre des commandos encore en vie, étaient les derniers à s'exprimer. Et enfin, deux nouvelles médailles pour les Français aux mondiaux de natation à Budapest. Ça fait 8, le record de 2011 est égalé. On en parle dans le Journal des Sports. La santé et la vie des femmes sont maintenant en danger. Déclaration du président Joe Biden après la révocation par la Cour suprême américaine de l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait le droit à l'avortement depuis 1973. Chaque État est désormais libre de décider de l'autoriser ou non sur son territoire. Le Missouri est immédiatement dans la foulée devenu le premier État à interdire donc l'interruption volontaire de grossesse. Il s'agit là d'un bouleversement majeur pour le droit des femmes. C'est un retour de presque 50 ans en arrière. On écoute Kimberly Kelly, elle est sociologue et spécialiste du genre à l'Université d'État du Mississippi.
C'est la toute première fois dans l'histoire de notre pays que la Cour suprême nous retire un droit établi. Elle ne l'avait jamais fait auparavant, pour aucun groupe, que ce soit les femmes, les personnes de couleur, les handicapés. C'est un énorme retournement. Nous allons donc créer un pays dans lequel il est énoncé clairement, dans une loi, que l'on ne croit pas les femmes capables de prendre la meilleure décision pour elles-mêmes, pour leur corps, leur famille, et que l'État doit leur dire ce qu'elles doivent faire. Et bien sûr, cet État est dirigé par des hommes blancs aisés. Pour eux, c'est facile. Si leur fille, leur femme ou leur copine a besoin d'avorter, ils pourront se payer le voyage, tout ira bien. On a pris toute une catégorie de citoyens américains et on leur a dit « Vous n'êtes pas complètement des êtres humains, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions importantes pour vous-même. Nous allons vous appliquer une formule toute faite, décidée par un État, qui ne connaît rien à vos besoins, qui ne sait pas ce qu'est être une femme et on va prendre la décision pour vous. »
Joe Biden dénonce une erreur tragique qui est le résultat d'une idéologie extrémiste. Il appelle les Américains à contester cette décision.
Je sais que maintenant, beaucoup de femmes vont devoir faire face à des situations incroyablement difficiles. Je vous entends, je vous soutiens. Je suis avec vous. Le consensus, les conséquences sur le peuple américain, les principes centraux d'égalité, de liberté, de dignité et la stabilité de l'état de droit exigeaient que l'arrêt Roe contre Wade ne soit pas annulé. Avec cette décision, la majorité conservatrice de la Cour suprême montre à quel point elle est radicale, à quel point elle est éloignée de la majorité de ce pays. Ils ont fait des États-Unis une exception intolérable parmi les pays développés. Mais cette décision ne signifie pas la fin de l'histoire. Mon administration va utiliser tous les pouvoirs légaux à sa disposition. Le Congrès doit agir et avec votre vote, vous pouvez agir. Vous pouvez avoir le dernier mot, ce n'est pas terminé.
You can have the final word. This is not over.
Joe Biden qui fait référence là aux prochaines élections législatives de mi-mandat où la situation s'annonce compliquée pour le camp démocrate. Autre réaction, celle de Donald Trump, l'ancien président américain qui a fait basculer la Cour suprême dans le camp conservateur. Il évoque la volonté de Dieu. Cette révocation du droit à l'avortement aux États-Unis fait réagir bien au-delà des frontières américaines. Un reportage de Nicolas Falaise pour Radio France Internationale.
L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes, il faut le protéger. Réaction du président français Emmanuel Macron qui exprime sa solidarité avec les femmes dont les libertés sont remises en cause par la Cour suprême des États-Unis. La première ministre française, Elisabeth Borne, parle d'un jour sombre pour les droits des femmes, alors que dans l'opposition de gauche, on réfléchit déjà à une proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau parle de nouvelles horribles et ajoute qu'aucun gouvernement, aucun politicien ni aucun homme ne devrait dicter à une femme ce qu'elle peut faire ou ne pas faire avec son corps. Au Royaume-Uni, le chef du gouvernement Boris Johnson déplore un grand retour en arrière. Et puis cette réaction de Michelle Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, regrette un coup terrible porté aux droits des femmes et souligne que les femmes possédant de faibles revenus ou appartenant à des minorités raciales et ethniques seront plus particulièrement affectées.
Et pour clore cette page consacrée au bannissement du droit à l'avortement par la Cour suprême américaine en 2022, je voudrais lire cette citation de Simone de Beauvoir, grande défendresse des droits des femmes largement entravés aujourd'hui. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Fin de citation. En Afghanistan, l'extrême dénuement des rescapés du séisme qui a frappé le sud-est du pays en milieu de semaine. Selon un bilan toujours provisoire, au moins 1100 personnes ont été tuées, 1600 blessées. Dans le district de Gayan, la province la plus touchée, 90% des habitations sont endommagées. Les habitants vivent désormais sous des tentes de fortune. Reportage sur place, signé Sonia Ghezali.
Dans le village de Tcho, de nombreux toits sont effondrés, des murs entaillés par de larges failles. La plupart des maisons en terre ici sont partiellement effondrées. Nassiboula, 11 ans, nous emmène dans la sienne. Les chambres ne sont plus que des tas de gravats.
Deux personnes de notre famille sont mortes et une personne est blessée. Après le tremblement de terre, on a laissé ces chambres parce que vous voyez comment les murs sont cassés. On s'est tous installés là. On a peur que ça recommence et qu'on soit tués, alors on reste dehors.
Dans la cour, trois femmes sont assises sur des nattes en plastique. C'est là que la famille vit désormais, le cœur lourd, 12 de leurs proches sont morts. Dimbacha a perdu ses deux enfants, Amna et Shukur étaient âgés de 3 et 2 ans.
J'ai réussi à retenir à bout de bras une partie du plafond qui s'est effondré. J'ai pu sauver ma femme, mais pas mes enfants, malheureusement. Mes deux enfants sont morts. Ma femme est blessée, elle est à l'hôpital. Je ne sais pas comment elle va.
Il enfouit ses yeux rougis dans son chèche et s'éloigne. Son père attend désespérément l'aide humanitaire qui n'est toujours pas arrivée.
Quand nous recevrons les tentes, nous irons nous installer près des montagnes.
Dans le village, personne ne dort dans sa maison depuis le séisme, car des répliques ont encore fait trembler la terre au cours de ces dernières 24 heures.
Direction l'Ukraine, où après des semaines de résistance acharnée et au lendemain de l'obtention de son statut de candidat à l'Union européenne, Kiev ordonne aux forces ukrainiennes de se retirer de Severodonetsk dans l'est du pays. Une étape cruciale pour les Russes qui veulent conquérir tout le bassin industriel du Donbass. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens ne seraient pas en capacité de mener des contre-offensives. C'est ce qu'estime le général Dominique Trinquant. On l'écoute.
Je pense qu'elles n'ont pas vraiment les capacités aujourd'hui de lancer des contre-offensives. Le sujet principal des Ukrainiens aujourd'hui, c'est de ne pas user leurs forces dans des combats retardateurs qui se font écraser par l'artillerie. C'est de se mettre en place sur des positions favorables pour pouvoir arrêter fermement l'offensive russe. Et donc, c'est pas ce qui s'est passé ces 15 derniers jours à Severodonetsk. Je pense que l'effort russe va continuer. Leur but, c'est bien de prendre l'ensemble du Donbass pour pouvoir clamer la victoire. Alors, il s'agit bien sûr d'user les forces russes dans cette tentative de conquête du reste du Donbass et de les arrêter sur une ligne favorable. Il faut que l'Ukraine absolument étudie la capacité à la fois sur des lignes de terrain favorables, mais aussi grâce à l'équipement qui leur est fourni par les Occidentaux, de coordonner les actions de feu pour arrêter les Russes.
Shirin Abu Akli a bien été tuée par l'armée israélienne, c'est ce qu'affirment les Nations Unies. La journaliste palestino-américaine, reporter vedette de la chaîne de télévision Al Jazeera, a été abattue d'une balle dans la tête le 11 mai dernier. Elle couvrait une opération des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie occupée. Ce rapport des Nations Unies vient confirmer la version des journalistes sur place. À Jérusalem, la correspondance pour RFI de Sami Boukhelifa.
L'enquête des Nations Unies corrobore également toutes les enquêtes indépendantes menées par des médias internationaux ces dernières semaines. Toutes les informations que nous avons recueillies, y compris de l'armée israélienne et du procureur général palestinien, aboutissent à la même conclusion. Les tirs qui ont tué Shirin Abu Akleh provenaient des forces de sécurité israéliennes, explique ainsi la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Le 11 mai dernier, dans l'heure qui suit le drame, l'État hébreu commence par rejeter toute responsabilité, affirmant que ce sont des tirs indiscriminés des groupes armés palestiniens qui ont atteint la journaliste. Quelques jours plus tard, les Israéliens changent de version. Ils ne sont plus aussi catégoriques, ils n'excluent plus qu'un de leurs soldats puisse être à l'origine du tir. Mais Israël reste droit dans ses bottes et rejette la faute sur les Palestiniens qui déclinent sa proposition de participer à des investigations conjointes. L'armée israélienne réclame la balle qui a tué Shirin Abu Akleh pour déterminer l'origine du tir. Les Palestiniens, eux, réclament à Israël l'arme qui l'a tué.
En France, les plaidoiries de la défense se sont achevées au procès des attentats du 13 novembre 2015. C'est l'un des procès criminels les plus longs de l'histoire moderne. Derniers avocats à prendre la parole, ceux de Salah Abdeslam, souvent présenté comme le principal accusé de ce procès historique et seul survivant des attaques de Saint-Denis et de Paris. Nathanaël Vitran pour RFI.
Vous vouliez mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Maître Olivia Ronen paraphrase Brassens pour dénoncer la peine demandée par le parquet national antiterroriste. La perpétuité incompressible, sans remise de peine possible. La pire sanction pénale prononcée à seulement 4 reprises. Que les choses soient claires, il a apporté son aide à l'État islamique. Il a accepté de faire partie des commandos terroristes. Il a déposé 3 hommes équipés de ceintures d'explosifs au Stade de France avant de s'enfuir. Bien sûr que nous nous attendions à une sanction lourde, mais la perpétuité incompressible, c'est comme si ces 9 mois n'avaient pas eu lieu. Ses avocats se sont attachés à souligner l'évolution de Salah Abdeslam entre le soldat de l'État islamique qui s'est présenté ainsi à la barre le premier jour et l'homme en larmes qui a présenté ses condoléances et ses excuses aux victimes lors de sa toute dernière prise de parole. Une émotion que je ne lui connaissais pas, lui qui pendant 6 années n'avait dans sa cellule qu'un seul costume, l'armure du djihadiste, a finalement trouvé dans son placard de quoi s'habiller autrement. L'avocate insiste sur son renoncement à se faire exploser. Elle conclut par une adresse à la cour, il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir. Si vous suivez le parquet, c'est le terrorisme qui aura gagné et nous n'aurons plus qu'à comprendre que ce procès n'était qu'une farce.
Et lundi, les 14 accusés de ce procès seront invités à prendre une dernière fois la parole, puis la cour se retirera pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi en fin de journée en France, dans la nuit de mercredi à jeudi, ici en Australie. Du côté de la politique française, eh bien c'est encore le flou depuis le résultat des élections législatives. Le gouvernement tente de faire des alliances pour ne pas se retrouver bloqué à l'Assemblée nationale au moment de faire passer de nouvelles lois. La première ministre a consulté l'ensemble des présidents de groupe. Elisabeth Borne a notamment appelé Mathilde Panot, la patronne des députés de la France insoumise, pour trouver un terrain d'entente.
L'appel avec la première ministre, qui était assez lunaire sur beaucoup des aspects. D'abord parce que lorsque je demande à la Première ministre si, comme cela se passe dans toutes les démocraties, elle va venir devant l'Assemblée nationale pour faire un discours de politique générale et demander la confiance à l'Assemblée nationale, la réponse de la Première ministre est celle-ci, on verra. Et l'impression générale qui se dégage de cet appel est finalement que la Macronie est en fait en train de naviguer à vue et ne sait absolument plus où elle va. En fait, on ne sait pas bien où ils vont, donc on ne peut pas bien se positionner lorsqu'on ne sait pas où ils vont. Mais tout cela, en fait, revient à la question du vote de confiance. C'est que la question est de dire que la Macronie a aujourd'hui perdu les élections législatives. Et on se retrouve avec un pouvoir qui refuse d'infléchir de rien son programme qu'il a présenté aux élections présidentielles.
Interrogé à l'issue du Conseil européen qu'il présidait à Bruxelles, Emmanuel Macron, lui, s'est dit très confiant dans sa capacité à bâtir des majorités constructives, comme en Allemagne ou en Italie, avec l'ensemble des partis de gouvernement. On l'écoute.
La France, elle sait faire des compromis, y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont des intérêts, qui des sensibilités, qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Pourquoi serions-nous incapables de le faire dans une assemblée avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner, de faire avancer le pays. Donc moi, je suis très confiant parce que je crois dans la bonne volonté des femmes et des hommes qui sont là pour représenter la nation. Et donc, je pense que les choses avanceront. Mais avec, encore une fois, un modèle qui est un peu différent selon les pays.
Un point sur la météo de ce samedi après-midi. Il fera 19 degrés à Perth, des nuages, des averses à Adélaïde, 16 degrés. Nuageux à Melbourne, 16 degrés également. Des averses à Hobart, en Tasmanie, 14 degrés. Des nuages à Canberra, 14 degrés également. Des nuages à Sydney, mais 21 degrés. Soleil à Brisbane, 22 degrés. Nuageux à Cairns, 27 degrés. Et Darwin, grand soleil, 32 degrés. On vous rappelle le principal titre de l'actualité du jour. La Cour suprême américaine révoque le droit à l'avortement et laisse les États choisir s'ils autorisent ou non l'IVG sur leur territoire. Le Missouri devient le premier État à l'interdire, suivi de près par le Dakota du Sud. Il s'agit là d'un coup terrible porté aux droits des femmes et un retour en arrière de près de 50 ans, puisque ce droit à l'avortement, était acquis aux États-Unis depuis 1973.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.